Septième partie. Visite. 25 juillet. 1. En ce mercredi matin, l'inspecteur Jack Hoskins de la police de Flint City fut réveillé à 2h du matin par une triple contrariété. La gueule de bois, un coup de soleil et l'envie de chier. Ça m'apprendra à manger à Los Tres Molinos, pensa-t-il. Mais avait-il vraiment mangé là-bas? Il en était presque sûr. Des enchiladas au porc et au fromage épicé. Mais pas absolument certain. C'était peut-être à l'hacienda. Les souvenirs de la veille étaient flous. Faut que je freine sur la vodka. Fini les vacances. Prématurément. Parce que leur petite police de merde n'avait plus qu'un seul inspecteur en service actuellement. Parfois, c'était vraiment une chienne de vie. Souvent même. Il se leva, et le bruit sourd qui résonna dans sa tête quand ses pieds entrèrent en contact avec le sol le fit grimacer. Il massa la brûlure sur sa nuque. Il ôta son caleçon, prit le journal sur la table de chevet, et se rendit aux toilettes d'un pas lourd pour faire ce qu'il avait à faire. Confortablement installé sur le siège de la cuvette, attendant que s'évacue ce flot semi-liquide qui survenait toujours 6 heures environ après qu'il avait mangé mexicain, retiendrait-il la leçon un jour? Il ouvrit le call et tourna les pages jusqu'à la section des bandes dessinées, seule chose valable dans le journal local. Les yeux plissés, il déchiffrait les minuscules bulles de dialogue de Get Fuzzy quand il entendit le rideau de douche s'agiter. Levant les yeux, il aperçut une ombre derrière les marguerites imprimées. Son cœur fit un bond dans sa gorge. Il y avait quelqu'un dans sa baignoire, un intrus. Pas juste un cambrioleur sans doute camé qui s'était faufilé par la fenêtre de la salle de bain et réfugié dans la seule cachette possible en voyant la lumière de la chambre s'allumer. Non, il s'agissait de ce même individu qui se trouvait derrière lui dans cette foutue grange abandonnée à Canning Township. Il le savait, aussi sûrement qu'il savait qu'il s'appelait Hoskins. Cette rencontre fortuite, si elle était réellement fortuite, demeurait ancrée dans son esprit depuis, et il s'attendait quasiment à ce retour. Tu sais bien que c'est des conneries. Tu as cru voir un homme dans la grange, mais quand tu l'as éclairé avec ta lampe, c'était un vieil harnachement démantibulé. Maintenant, tu crois qu'il y a un intrus dans ta baignoire, mais ce qui ressemble à sa tête, c'est juste le pommeau de douche. Son bras, c'est la brosse à long manche coincée dans la barre d'appui fixée au mur. Quant au bruissement du rideau, c'était un courant d'air ou un bruit dans ta tête. Il ferma les yeux, les rouvrit et contempla le rideau de douche orné de ses fleurs ridicules. Le genre de rideau qui peut plaire uniquement à une ex-femme. Maintenant qu'il était parfaitement réveillé, la réalité reprenait ses droits. Oui, c'était juste le pommeau et la brosse à long manche. Quel imbécile! Un imbécile qui avait la gueule de bois, la pire espèce. Le rideau bruissa de nouveau. Car cette chose dont Hoskins voulait se convaincre qu'il s'agissait de sa brosse pour le dos était maintenant dotée de doigts flous qui se tendaient vers le plastique. Le pommeau de douche se retourna et sembla le regarder fixement à travers le rideau transparent. L'inspecteur laissa échapper le journal qui atterrit sur le carrelage presque sans bruit. Ça cognait et cognait dans sa tête. Il avait la nuque en feu. Ses intestins se relâchèrent et la salle de bain exiguë fut envahie par l'odeur de ce qui lui apparut soudain comme son dernier repas. La main se tendait vers le bord du rideau. Dans une seconde, deux tout au plus, elle allait l'ouvrir, et il découvrirait une créature si horrible que, par comparaison, son pire cauchemar ressemblerait à un doux rêve éveillé.
« Non, » murmura-t-il, « non. »
Il voulut se lever des toilettes, mais ses jambes refusèrent de le soutenir, et son énorme postérieur retomba sur le siège.
« Par pitié, non !»
Une main apparut sur le côté du rideau, mais au lieu de l'ouvrir, elle l'empoigna. Sur les doigts était tatoué ce mot. « Kant. »«
Jack !»
Il était incapable de répondre. Il resta assis sur les toilettes, nu, en continuant à se vider de ses entrailles dans la cuvette, le cœur cognant comme un moteur qui s'emballe. D'une seconde à l'autre, il allait jaillir de sa poitrine, et la dernière chose qu'il verrait sur terre, ce serait son cœur, gisant sur le carrelage, aspergeant de sang ses chevilles et les bandes dessinées de Flint City Call à chacun de ses ultimes soubresauts.
Ce n'est pas un coup de soleil, Jack.
Il aurait aimé s'évanouir, tomber de la cuvette. Et s'il se faisait une commotion cérébrale, s'il s'ouvrait le crâne même, quelle importance! Au moins il échapperait à tout ça. Mais sa conscience était toujours là, à l'instar de la silhouette dans la baignoire, et des doigts agrippés au rideau, Kant, en lettres bleues délavées.
Touche ta nuque, Jack. Si tu ne veux pas que j'ouvre ce rideau pour me montrer à toi, fais-le, maintenant.
Hoskins leva la main et la posa sur sa nuque. La réaction de son corps fut instantanée. De terrifiants éclairs de douleur irradièrent jusque dans ses tempes et ses épaules. En regardant sa main, il la découvrit rouge de sang.
« Tu souffres d'un cancer »,
l'informa la silhouette derrière le rideau.
« Il a envahi tes glandes lymphatiques, ta gorge, tes sinus. Il est dans tes yeux. Jack, il dévore tes yeux. Bientôt tu pourras le voir. » Des petites cellules cancéreuses grises qui se promèneront dans ton champ de vision. Sais-tu quand tu l'as attrapé ?
Bien sûr qu'il le savait. Quand cette créature l'avait touché, là-bas, à Canning Township, quand elle l'avait caressé.
C'est moi qui te l'ai inoculé, mais je peux le reprendre. Tu voudrais que je le reprenne ? Oui, chuchota Jack.
Il se mit à pleurer.
Reprenez-le. Je vous en supplie, reprenez-le. Tu feras quelque chose si je te le demande. Oui, sans hésiter. Oui, je te crois.
Et tu ne me donneras aucune raison de ne pas te croire, hein?
Non, non. Très bien. Lave-toi maintenant, tu pues.
La main tatouée se retira. Mais la silhouette cachée derrière le rideau de douche continua à l'observer. Non, ce n'était pas un homme finalement, mais une créature bien plus terrible que le plus terrible des hommes ayant jamais existé. Hoskins tendit la main vers le papier toilette, conscient se faisant de basculer sur le côté et de tomber du siège, pendant que le monde s'obscurcissait et rétrécissait simultanément. Tant mieux. Il tomba, sans ressentir aucune douleur. Avant même d'atteindre le sol, il avait perdu connaissance. 2. Jenny Anderson se réveilla à 4 heures du matin, la vessie pleine, comme d'habitude. En temps normal, elle aurait utilisé leur salle de bain. Mais Ralph dormait mal depuis le meurtre de Terry Maitland. Et ce soir, elle l'avait trouvé particulièrement agité. Alors, après s'être levée, elle se dirigea vers les toilettes situées au bout du couloir, à côté de la chambre de Derek. S'étant soulagée, elle faillit tirer la chasse, mais songea que cela risquait de réveiller Ralph. Ça attendrait demain matin.
Bon sang, encore 2 heures, pensa-t-elle en ressortant des toilettes. 2 heures de sommeil, c'est tout ce que...
Elle s'immobilisa dans le couloir. Il faisait noir au rez-de-chaussée quand elle était sortie de la chambre, non? Certes, elle dormait à moitié, mais si une lumière avait été allumée, elle l'aurait remarqué.
Tu en es sûre?
Non, pas totalement. En tout cas, il y avait de la lumière en bas. Une lumière blanche, tamisée, le néon au-dessus de la cuisinière. Elle avança jusqu'au palier et contempla d'en haut cette lumière, front plissé, concentrée. Avait-il enclenché l'alarme avant de monter se coucher? Oui, c'était devenu un automatisme. Elle l'avait activé et Ralph avait vérifié. Une habitude là encore. Qui avait commencé, à l'instar des insomnies de Ralph, après la mort de Terry Maitland. Jenny envisagea de réveiller son mari, puis décida de s'abstenir. Il avait besoin de dormir. Elle eut l'idée alors d'aller chercher son revolver de service, dans la boîte rangée sur l'étagère du haut de la penderie. Mais la porte grinçait, et cela le réveillerait à coup sûr. Et puis, n'était-elle pas un peu parano? Cette lumière était déjà allumée quand elle s'était rendue aux toilettes. Mais elle ne s'en était pas aperçue, voilà tout. Ou bien elle s'était allumée toute seule à cause d'un dysfonctionnement. Elle descendit rapidement en faisant un écart à gauche sur la 3e marche et à droite sur la 9e pour éviter de les faire grincer, sans même s'en rendre compte. Elle marcha jusqu'au seuil de la cuisine
et risqua un coup d'œil à l'intérieur, se sentant un peu ridicule. Son soupir de soulagement souleva une mèche de cheveux. Il n'y avait personne dans la cuisine. Mais alors qu'elle se dirigeait vers la cuisinière, elle s'arrêta. Habituellement, il y avait 4 chaises autour de la table, 3 pour la famille et 1/4 qu'ils appelaient la chaise de l'invité. Il n'y en avait plus que 3.
« Ne bougez pas !» ordonna une voix. « Si vous bougez, je vous tue. Si vous hurlez, je vous tue. »
Elle se figea, le cœur battant à tout rompre. Ses cheveux s'étaient dressés sur sa nuque. Si elle n'avait pas vidé sa vessie avant de descendre, l'urine aurait coulé le long de ses cuisses et formé une flaque. L'homme, l'intrus, était assis sur la chaise des invités, dans leur salon, suffisamment en retrait pour que Gianni aperçoive uniquement le bas de ses jambes. Il portait un jean délavé et était pieds nus dans des mocassins. De petites plaques rouges constellaient ses chevilles, peut-être du psoriasis. La partie supérieure de son corps n'était qu'une vague silhouette. On devinait de larges épaules, légèrement tombantes, non pas à cause de la fatigue, mais comme si des muscles trop développés l'empêchaient de les redresser. C'était curieux ce que l'on pouvait remarquer dans un moment pareil, songea-t-elle. La terreur annihilait les capacités de tri de son cerveau, et tout se déversait sans a priori. Voilà l'homme qui avait tué Frank Peterson, l'homme qui l'avait mordu comme un animal sauvage et l'avait violé avec une branche. Cet homme se trouvait dans sa maison, et elle était là, face à lui, dans son pyjama short, sous lequel ses tétons devaient pointer comme 2 phares.
« Écoutez-moi, » dit-il. « Vous m'écoutez ?»«
Oui, »
murmura Gianni. Mais elle se sentait vaciller et craignait de s'évanouir avant d'avoir entendu ce qu'il avait à dire. Car dans ce cas, il la tuerait. Ensuite, il repartirait, ou bien il monterait à l'étage et tuerait Ralph, avant même que celui-ci comprenne ce qui se passait.
Et à son retour de colonie, Derek serait orphelin. Non, non, non! Qu'est-ce que vous voulez?
Dites à votre mari que c'est fini. Dites-lui d'arrêter. S'il obéit, tout redeviendra comme avant. Sinon, dites-lui que je le tuerai. Je les tuerai tous.
Sa main émergea de l'obscurité du salon pour pénétrer dans la faible lueur que projetait l'unique tube au néon. Une main épaisse, qui se transforma en poing.
Qu'est-ce qui est écrit sur mes doigts? Lisez!
Gianni déchiffra les lettres bleues délavées. Elle voulut parler, sans y parvenir. Sa langue n'était qu'une protubérance accrochée à son palais. L'homme se pencha en avant. Elle découvrit des yeux sous un large front, des cheveux noirs, si courts qu'ils se hérissaient sur son crâne, et des yeux noirs qui n'étaient pas seulement posés sur elle, mais qui pénétraient en elle, qui fouillaient son cœur et son esprit.
« Il est écrit « must », dit-il. « Vous le voyez, hein ?»«
Oui. »«
Vous devez lui dire d'arrêter. »
Les lèvres rouges remuaient dans le cercle d'un bouc noir.
« Dites-lui que si lui ou l'un d'entre eux essaie de me retrouver, je les tuerai. Et je laisserai leurs entrailles dans le désert pour les vautours. Vous avez compris ?»«
Oui, » voulut-elle répondre. Mais sa langue demeura figée et ses genoux se dérobèrent. Elle tendit les bras devant elle afin d'amortir sa chute, sans savoir si elle y parvint, car elle avait perdu connaissance avant d'atteindre le sol. 3. Jack se réveilla à 7 heures. Le soleil d'été, éclatant, entrait par la fenêtre et se répandait sur son lit. Dehors, des oiseaux gazouillaient. Il se redressa brutalement, en jetant des regards affolés autour de lui, à peine conscient du martèlement sous son crâne, dû à la vodka de la veille. Il se leva prestement et ouvrit le tiroir de sa table de chevet, dans lequel il gardait un Pathfinder calibre 38 en cas d'agression. Le revolver collé contre la joue, le canon court pointé vers le plafond, il traversa la chambre à grandes enjambées. Du pied, il écarta son caleçon qui traînait par terre, et quand il atteignit la porte, ouverte, il s'arrêta, le dos au mur. L'odeur qui flottait dans l'air, si elle s'atténuait, lui était familière. Les retombées de l'expérience enchiladas de la veille au soir. Il s'était levé pour aller déféquer. Ça, au moins, il ne l'avait pas rêvé.
« Il y a quelqu'un ? Si oui, répondez. Je suis armé et j'hésiterai pas à tirer.
Rien. Jack retint son souffle et pivota dans l'encadrement de la porte, accroupi, balayant la salle de bain avec le canon du 38. Il vit les toilettes, la battant levée et le siège baissé. Il vit le journal par terre, ouvert à la page des bandes dessinées. Il vit la baignoire et son rideau à fleurs tirées. Il vit des formes derrière, mais c'était celle du pommeau de la douche, de la barre d'appui et de la brosse pour le dos.
« Tu es sûr ?»
Avant que son courage l'abandonne, il fit un pas en avant, glissa sur le tapis de bain et s'accrocha au rideau de douche pour éviter de basculer cul par-dessus tête. Le rideau se décrocha et lui couvrit le visage. Il hurla, l'arracha furieusement et pointa le revolver sur la baignoire. Vide. Personne. Pas de croque-mitaine. Il examina le fond. Il n'était pas véritablement un maniaque de la propreté. Et si quelqu'un s'était caché là, il aurait laissé des traces dans la fine couche de savon et de shampoing séché. Rien. Tout cela n'était qu'un rêve. Un cauchemar particulièrement net. Néanmoins, il inspecta la fenêtre de la salle de bain et les trois portes qui donnaient sur l'extérieur. Tout était bien fermé. Ok. Le moment était venu de se détendre. Ou presque. Il retourna dans la salle de bain afin de jeter encore un coup d'œil, dans le placard à serviettes cette fois. Rien. Du bout du pied, il repoussa le rideau de douche d'un air dégoûté. Il était temps de le changer. Il ferait un saut chez Home Depot dans la journée. D'un geste distrait, il se frotta la nuque et poussa un sifflement de douleur lorsque ses doigts entrèrent en contact avec la peau. Il se planta devant le miroir au-dessus du lavabo et tourna la tête, mais impossible de voir sa nuque en regardant par-dessus son épaule. Il ouvrit le tiroir du haut du meuble situé sous le lavabo. Il ne contenait que du matériel de rasage, des peignes, une bande élastique à moitié déroulée et le plus vieux tube d'antifongique du monde. Encore un petit souvenir de l'ère Greta, comme ce stupide rideau de douche. Enfin, dans le tiroir du fond, il trouva ce qu'il cherchait. Un miroir aux manches brisées. Il ôta la poussière qui le recouvrait, recula jusqu'à ce que ses fesses cognent contre le bord du lavabo et leva le miroir. Sa nuque était enflammée et il voyait apparaître quelques petites cloques semblables à des semences de perles. Comment était-ce possible, alors qu'il se tartinait de crème solaire et n'avait aucun autre coup de soleil ailleurs?
« Ce n'est pas un coup de soleil, Jack. »
Hoskins émit un petit gémissement. Assurément. Personne n'avait mis les pieds dans sa baignoire cette nuit, et certainement pas une sorte de cinglé effrayant qui s'était fait tatouer Kant sur les doigts. En revanche, une chose était sûre. Il y avait plusieurs cas de cancer de la peau dans sa famille. Sa mère et un de ses oncles en étaient morts. « Ça va avec les cheveux roux », disait son père, après que lui-même s'était fait retirer des polypes sur un bras, des grains de beauté précancéreux sur les mollets, et un carcinome basocellulaire à la naissance du cou. Jack se souvenait de cet énorme grain de beauté noire, qui ne cessait de grossir, sur la joue de son oncle. Il se souvenait des plaies à vif sur le sternum de sa mère, et de son bras gauche rongé. La peau était le plus grand organe du corps, et quand il commençait à se détraquer, ce n'était pas beau à voir.
« Tu voudrais que je le reprenne ?» avait demandé l'homme derrière le rideau. « C'était un rêve, » dit Hoskins. « J'ai eu la trouille de ma vie à Canning. Et hier soir, je me suis empiffré de mauvaise bouffe mexicaine, alors j'ai fait un cauchemar, un point, c'est tout. »
Cela ne l'empêcha pas de chercher des ganglions sous ses aisselles, sous sa mâchoire, à l'intérieur de ses narines. Rien. Un coup de soleil sur la nuque. Voilà tout. Sauf qu'il n'en avait pas d'autre ailleurs. Uniquement cette bande de peau qui l'élançait. Ça ne saignait pas vraiment, preuve que la rencontre de cette nuit n'était qu'un rêve. Mais une multitude de cloques apparaissait déjà. Sans doute devrait-il aller consulter. Et il le ferait, après avoir attendu 2 ou 3 jours que ça guérisse tout seul.
Tu feras quelque chose si je te le demande, sans hésiter. Personne n'hésiterait,
pensa Jack, en observant sa nuque dans le miroir. Si l'alternative, c'était de se faire bouffer vivant de l'extérieur, personne.